Vous écoutez On lit pour vous.
Une hausse de 6% des loyers pourrait plonger plus de 30 000 personnes dans la précarité, selon Centraide du Grand Montréal. Un texte de Centraide du Grand Montréal paru le 7 juillet 2026 dans PR Newswire. Une analyse prévisionnelle réalisée par Run With It Synthetics pour le compte de Centraide du Grand Montréal révèle qu'une hausse de 6% des loyers pourrait faire basculer plus de 30 000 personnes dans la précarité, soit près d'une fois et demie la capacité du Centre Bell. Parmi elles, plus de 16 000 se retrouveraient en situation de précarité extrême, où la moindre dépense imprévue pourrait entraîner des conséquences graves. Insécurité alimentaire, endettement, perte de logement, voire itinérance. Ces résultats reposent notamment sur des modèles développés à l'aide de l'intelligence artificielle conçus pour simuler l'évolution du marché locatif dans le Grand Montréal et prévoir les effets de la hausse des loyers. En s'appuyant sur une réplique numérique du territoire couvrant 66 municipalités, l'analyse sur le poids du loyer permet d'estimer l'impact possible de l'augmentation des coûts du logement et de montrer concrètement comment cela affecte les populations. L'hypothèse d'une hausse de 6% repose sur les tendances récentes du marché. Elle permet de mesurer l'impact d'une augmentation significative mais plausible sur les ménages, surtout ceux dont la marge de manœuvre financière est déjà limitée. À titre de comparaison, la hausse recommandée par le Tribunal administratif du logement était d'environ 4% en 2024, de 5,9% en 2025 et de 3,1% en 2026, sur 3 ans. Cela représente une augmentation cumulative d'environ 13,6% des loyers. Cette analyse sur le poids du loyer s'inscrit dans la continuité de la mobilisation collective Agir ensemble pour le logement, lancée en 2023 par Centraide du Grand Montréal. Elle répond à l'une des pistes de solutions identifiées, soit le renforcement et la diffusion des données permettant de favoriser l'accès à des logements adéquats pour les ménages à faible revenu. 3 ans après Agir ensemble pour le logement, l'urgence est encore plus criante. La demande pour les services des organismes a explosé, comme le démontrent les données de l'indice d'anxiété financière, et ces derniers constatent chaque jour les impacts du coût du logement. Familles déplacées, personnes seules à bout de ressources, travailleurs incapables de se loger dignement, mentionne Tasha Lachman, présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal. Ces données confirment qu'investir dans le logement social et communautaire est essentiel pour permettre à la population de se loger adéquatement selon ses moyens. Elles nous amènent également à explorer de nouvelles avenues avec nos partenaires de l'écosystème afin d'améliorer les conditions de logement et d'assurer le maintien du parc locatif. De nouvelles initiatives émergent déjà, comme les subventions au loyer et les banques d'aide au loyer qui offrent des pistes concrètes pour répondre à l'urgence. La plateforme Inflector AI de Run With It Synthetics a généré une population synthétique détaillée et précise de Montréal qui n'est jamais associée à des personnes identifiables et sans utiliser de données de surveillance. Cela comprend des données sur les revenus, les dépenses, les ménages et les résidences réelles avant de simuler une augmentation des loyers de 6%, déclare Dean Bittner, directeur de la technologie et cofondateur de Run With It Synthetics. Ce qui en ressort, ce sont les ménages, les personnes, leur lieu de résidence et leur situation, nous permettant de mesurer le retour sur investissement ainsi que l'impact des mesures que nous pouvons prendre pour qui et à quel endroit, et ce afin de freiner le glissement vers la précarité et la pauvreté et d'éviter ses répercussions sociales et économiques. 10 arrondissements sous pression. Selon les projections de Run With It Synthetics, une hausse de 6% des loyers entraînerait un basculement vers la précarité extrême pour 10 000 résidents répartis dans 10 arrondissements de l'île de Montréal. Ansic-Cartierville, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, La Salle, le plateau Mont-Royal, le Sud-Ouest, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Nord, Rosemont-la-Petite-Patrie, Ville-Marie et Villeray-Saint-Michel par extension. Les situations les plus préoccupantes se retrouveraient dans Ville-Marie et sur le plateau Mont-Royal, où les taux de précarité extrême atteindraient respectivement 43 % et 34 %, rendant ces secteurs particulièrement vulnérables à une hausse des loyers. L'indice de précarité, une mesure plus complète pour mieux intervenir. Les indicateurs traditionnels de vulnérabilité financière se concentrent généralement sur les revenus en négligeant le poids des dépenses. Pour combler cette lacune, un indice de précarité a été développé. Il tient compte à la fois des revenus et des dépenses essentielles, logement, alimentation, énergie. Cet indice se décline en quatre niveaux : stabilité, faible précarité, forte précarité et précarité extrême. La précarité extrême se caractérise par une instabilité constante. Après ces dépenses incontournables, il reste peu ou presque rien. Les personnes sont alors contraintes à faire des choix immédiats comme se priver de repas, retarder des paiements, réduire le chauffage ou renoncer à des soins. À propos de Centraide du Grand Montréal. Véritable agent de changement, Centraide du Grand Montréal est une fondation publique qui a pour mission de rassembler et agir pour un Grand Montréal inclusif et sans pauvreté. Pour ce faire, il soutient un réseau de 375 organismes et projets communautaires qui interviennent à Laval, à Montréal et sur la rive sud afin d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation de pauvreté. Centraide collabore avec la population du Grand Montréal ainsi qu'avec les milieux communautaires, des affaires, institutionnelles et philanthropiques. Pour plus d'informations ou pour contribuer à la campagne, Centraide. Centraide, trait d'union, mtl.org. C'était « Une hausse de 6 % des loyers pourrait plonger plus de 30 000 personnes dans la précarité » selon Centraide du Grand Montréal. Un texte de Centraide du Grand Montréal paru le 7 juillet 2026 dans PR Newswire.
L'itinérance au féminin. Un dossier de Vincent David paru le 31 juillet 2026 dans Le Devoir. Premier texte, l'itinérance des femmes âgées, un fléau qui ne cesse de grandir. Quelqu'un qui serait passé par où je suis passé, il ne serait peut-être même pas là aujourd'hui. Claudia a 59 ans. Jusqu'à récemment, elle travaillait dans un magasin Home Depot. En septembre 2025, elle a perdu son emploi puis son appartement. Après un bref passage en résidence, des ennuis de santé l'ont forcée à être hospitalisée pour se faire opérer de la vésicule biliaire. À son retour, début janvier 2026, elle avait perdu sa place. Elle s'est retrouvée sans logement en plein hiver. La réalité de Claudia, qui a demandé de taire son nom de famille, est celle de nombreuses femmes âgées qui basculent dans l'itinérance. À Montréal, l'organisme Le Chaînon, qui accueille des femmes en difficulté, s'alarme de l'âge croissant des résidentes qui intègrent ces ressources. Selon son rapport d'activité 2024-2025, 37 % des femmes hébergées par l'organisme ont plus de 50 ans. Et faute de place, l'organisme est contraint de refuser une vingtaine de demandes par jour. Les experts attendent toujours les statistiques détaillées du dénombrement 2025 sur l'itinérance visible effectuée par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Mais, pour plusieurs, ces chiffres ne reflèteront que partiellement l'ampleur du phénomène. L'itinérance des femmes âgées, c'est une itinérance qui est beaucoup plus cachée, beaucoup plus dissimulée, explique Valérie Bourgeois-Guérin, professeur de psychologie spécialisé en itinérance des personnes âgées à l'UQAM. On sait très bien que les statistiques qu'on a sont juste la pointe de l'iceberg. Avec quoi je vis? Agression sexuelle, dépression, violence physique, contraction du VIH. Claudia n'a pas eu une vie facile. À 17 ans, elle est tombée enceinte. Aujourd'hui, elle ne voit plus sa fille, dont elle a dû se séparer lorsque celle-ci était adolescente. Malgré ce parcours éprouvant, elle avait réussi, jusqu'à cet automne, à maintenir une certaine stabilité. « J'ai toujours travaillé, toute ma vie », raconte-t-elle. « Puis, je suis tombée en dépression, j'ai perdu ma job. Ce que j'avais par moi, ça ne suffisait même pas à payer mon loyer. Ça fait que je me suis ramassée sans domicile. » Le loyer de Claudia était de 975 $, son chèque d'aide sociale de 973 $. Comment veux-tu que j'arrive? Avec quoi je mange? Avec quoi je vis? Demande-t-elle, désemparée. Selon Elisabeth Gressler, professeure à l'École de travail social de l'Université de Montréal, la hausse du coût des loyers est l'une des principales causes de l'augmentation de l'itinérance chez les femmes âgées. L'évolution des revenus des personnes âgées ne suit tout simplement pas celle du prix des logements. À cela vient s'ajouter un vieillissement croissant de la population québécoise qui se traduit à la fois par l'augmentation de l'âge moyen de la population itinérante et, pour plusieurs, par un premier épisode d'itinérance beaucoup plus tardif qui rend plus difficile l'accès aux ressources disponibles, selon Mme Gressler. Ainsi, à 59 ans, Claudia s'est retrouvée dans la rue pour la première fois de sa vie. Elle a donc commencé à se promener, de place en place, dans différents refuges montréalais. Une journée, j'étais tellement découragée. J'avais une liste de refuges. Pas de place, pas de place, pas de place. Cette nuit-là, elle a miraculeusement pu dormir dans un des salons de l'accueil d'urgence du Chaînon. Ce n'est toutefois qu'à la mi-mai qu'elle a pu y avoir une place permanente. Un parcours de la combattante. Faible revenu, troubles de santé mentale, maladies chroniques, des caractéristiques récurrentes touchent les femmes vieillissantes qui tombent en situation d'itinérance. La majorité a également été victime de violences ou de maltraitances, que cela se traduise par de la violence conjugale, sexuelle, psychologique, de la négligence ou de l'abus financier. Mais leur profil est parfois également bien différent de ce à quoi certains pourraient s'attendre. Certaines ont été avocates, fonctionnaires ou infirmières, fait remarquer Sonia Côté, PDG du Chaînon. « Il n'y a personne qui est à l'abri », souligne Claudia. « Regarde, moi, à 59 ans, c'est-tu normal que je me ramasse dans la rue? Quand toute ma vie j'ai payé mes appartements, j'ai payé mes affaires et, du jour au lendemain, je prends une débâcle, puis je perds tout. » Ce basculement rapide représente le point commun de plusieurs femmes âgées en situation d'itinérance. C'est souvent un événement, deux événements, qui engendrent le basculement, un décès, une maladie grave. Mais ça peut effectivement être très soudain, observe Valérie Bourgeois-Guérin. Et l'expérience de l'itinérance est particulièrement difficile pour cette frange de la population, selon elle. D'une situation de violence à la maison, elle retrouve une nouvelle forme de violence dans la rue, explique la professeure, qui estime que cette situation amène plusieurs femmes à hésiter à fréquenter certains refuges mixtes. D'autant plus que ces ressources sont souvent mal adaptées aux besoins d'une population âgée, explique la professeure de l'UQAM. Les hébergements à l'origine ont été surtout construits en ayant en tête une population itinérante plus jeune, explique-t-elle. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est vraiment structurel. Ce n'est pas pensé pour ça. Sonia Côté décrit cette épreuve comme un véritable parcours de la combattante. Quand les femmes arrivent au Chaînon, elles sont à bout de force, elles sont épuisées, elles n'ont plus d'espoir, laissent-elles tomber. Elles ne savent pas si elles vont vivre une heure de plus. Et pour Claudia, la majorité des femmes dans sa situation veulent s'en sortir. Il s'agit simplement de leur en donner les moyens. « Il ne faut pas juger juste parce qu'on est dans la rue, » dit-elle. « Il y a une personne en arrière de ça. Si la personne est « fuckée », il y a une raison pourquoi elle est comme ça. Elle mérite d'être aidée pareil. » Vous écoutez « L'itinérance au féminin », un dossier de Vincent David, paru le 31 juillet 2026 dans Le Devoir. Deuxième texte. L'approche logement d'abord. La clé pour aider les femmes âgées sans abri? De l'hébergement d'urgence jusqu'au logement permanent. C'est vraiment ce qu'on fait ici, c'est notre vision. À l'heure où la crise de l'itinérance des femmes âgées continue de s'accentuer, des organismes mettent en place diverses initiatives pour tenter de l'endiguer. Leur priorité, fournir un toit à ces femmes le plus rapidement possible, misant notamment sur l'approche du logement d'abord, une initiative qui suscite un espoir grandissant, mais qui doit être adaptée à la diversité des trajectoires, selon des experts. À l'organisme chez Doris, l'hébergement va du lit pour la nuit au logement permanent. Idem du côté du chaînon. En plus de sa maison principale pouvant accueillir 51 femmes pour de l'hébergement d'urgence et de courte durée, l'organisme montréalais dispose de 3 édifices où peuvent résider 91 femmes, dont une maison réservée aux femmes de 55 ans et plus. Il fait également affaire avec 27 propriétaires pour loger 70 femmes dans des logements privés dans le cadre de son programme « Un toit pour elles », inspiré de l'approche du logement d'abord. Le but de cette approche, renverser la logique traditionnelle qu'on dit en escalier, explique Elisabeth Gressler, professeure à l'École de travail social de l'Université de Montréal. Au lieu qu'une personne itinérante suive les nombreux « paliers » qui précèdent habituellement l'obtention d'un logement permanent, refuge d'urgence, thérapie de désintoxication, logement de transition, elle accède directement à celui-ci tout en jouissant d'une aide au loyer et en étant accompagnée par une équipe de soutien. Une diversité des visages. Cette méthode d'intervention a d'abord été introduite au Canada par le biais du projet « Chez soi », une étude pan-canadienne menée de 2009 à 2013 dans 5 villes du pays. Dans la région de Montréal, des 285 personnes itinérantes ayant bénéficié de cette approche dans le cadre du projet, 276 sont sorties de la rue. En avril 2026, un rapport de l'Institut Cyrano rappelait que cette méthode d'intervention coûtait 2 fois moins cher que de laisser une personne dans la rue. Pour Sonia Côté, PDG du Chaînon, le projet Chez Soi a constitué un véritable changement de paradigme. Avant, on gérait l'itinérance. Maintenant, on veut y mettre fin, résume-t-elle. Le gouvernement fédéral a adopté divers programmes visant à implanter cette approche à travers sa stratégie des partenariats de la lutte contre l'itinérance à partir de 2014 et le programme Vers un chez-soi adopté en 2019. Au niveau provincial, son implantation s'est traduite par une bonification du programme de supplément au loyer à partir de 2015. Sans rejeter fondamentalement l'approche du logement d'abord, certains organismes communautaires avaient cependant reproché au gouvernement de l'adopter trop rapidement et uniformément, sans tenir compte des spécificités et de la diversité du modèle d'intervention québécois, rappelle Elisabeth Gressler. Il y a une diversité des visages et des réalités qui fait que la diversité d'approches semble tout à fait justifiée, explique-t-elle. Ce n'est pas qu'ils refusent de les mettre en logement, c'est que le logement autonome n'est peut-être pas la solution pour toutes les personnes. La position de Mme Gressler rejoint la philosophie de chez Doris. Il n'y a pas qu'une solution, souligne Marie-Pierre Grenier, directrice des communications de l'organisme. On ne peut pas imposer, ce n'est pas une solution pérenne. Il faut s'assurer qu'on fasse les choses dans le respect et la dignité de la dame, fait-elle remarquer. Une solution à l'itinérance des femmes âgées? Le Chaînon considère qu'il est impératif de s'adapter à la volonté de chaque femme, que celle-ci veuille un lit pour la nuit, pour quelques jours ou plusieurs années. Plus on se rapproche du choix de la personne, plus l'approche sera concluante, explique Sonia Côté, qui précise cependant que le programme « Un toit pour elle » demeure le plus demandé auprès des femmes de l'organisme. Plusieurs défis peuvent toutefois rendre difficile l'implantation à grande échelle de l'approche du logement d'abord pour les femmes âgées en situation d'itinérance, soutient Mme Gressler. Un propriétaire peut, par exemple, être plus réticent à louer un logement à une femme vivant depuis longtemps dans la rue. La professeure note aussi que vivre seule dans un appartement peut faire ressortir certains traumatismes, rendant difficile le maintien en logement. D'où l'importance du soutien et des soins à domicile que tous les organismes n'ont pas la capacité d'assurer, mais qui, ensemble, représentent, selon Marie-Pierre Grenier, l'aspect qui est vraiment crucial. Sonia Côté convient de la complexité du service. Tu ne peux pas improviser. Tu dois vraiment travailler ton approche, soutenir ton équipe, explique-t-elle. Ça demande des intervenants qualifiés. À ses yeux, maintenir de tels programmes nécessitera une stabilisation du financement des organismes communautaires qui doivent être considérés comme des partenaires incontournables dans la lutte contre l'itinérance, au même titre que le réseau public. Il y a comme une iniquité dans la façon qu'on traite les organismes communautaires, et ça fragilise tout le réseau, soutient Mme Côté, qui se réjouit par ailleurs de l'attention croissante portée au problème de l'itinérance. Maintenant, donnons-nous les moyens de régler la situation, déclare-t-elle. Il faut être ambitieux. C'était L'itinérance au féminin, un dossier de Vincent David, paru le 31 juillet 2026 dans Le Devoir.
Reconnaissance vocale, vieille adresse courriel et l'infâme nettoyage d'un PC. Un texte d'Alain McKenna, paru le 8 juillet 2026 dans la presse. Un lecteur, Pascal Mailloux, demande « Lorsque je communique par téléphone avec Desjardins, il m'identifie avec ma voix. Est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, des malfaiteurs pourraient copier ma voix lors d'un appel non désiré? Pourquoi Desjardins ne fait pas la vérification en deux étapes lors de ses appels? » C'est une question légitime. Mais Desjardins dit qu'elle fait plus que simplement écouter le charmant timbre de la voix de ses clients, justement pour éviter les cas d'usurpation. Pour vous authentifier par téléphone, Desjardins compare les caractéristiques uniques de votre voix à une empreinte vocale chiffrée, puis ajoute pour s'assurer de votre identité d'autres informations liées à votre appel, comme les caractéristiques de votre combiné téléphonique et les renseignements associés à votre numéro de téléphone. La voix comme telle n'est donc qu'une partie de l'authentification. C'est une authentification à plus d'un facteur, même si ce n'est pas entièrement apparent. Pour créer une empreinte vocale, le système capte des paramètres comme votre tonalité et votre débit. Vous devez d'abord vous y inscrire et enregistrer un court extrait de votre voix par téléphone. L'empreinte est stockée de façon sécuritaire et n'est pas un enregistrement direct de votre voix. Vous pouvez désactiver ce mode d'authentification à tout moment si cela vous inquiète. Si Desjardins ne peut vous authentifier à l'aide de votre voix et des autres paramètres de l'appel, un conseiller prendra la ligne et validera votre identité avec d'autres méthodes d'authentification, comme l'envoi d'un code par texto ou courriel. Un lecteur, Alain Marcoux, demande « J'ai le logiciel CCleaner installé sur mon PC. Récemment, il m'a suggéré de lancer mon bilan de santé et d'analyser mon disque dur. Il a trouvé des fichiers indésirables et des fichiers à nettoyer. Cette analyse et le nettoyage suggérés sont-ils sécuritaires? » Ce message utilise une vieille recette informatique. Inquiétez l'utilisateur pour justifier un logiciel. Vous pouvez ignorer cette alerte. L'analyse en soi reste sécuritaire, mais le nettoyage automatique comporte des risques inutiles. Le volume de fichiers indésirables affichés par CCleaner regroupe surtout des données temporaires, comme celles de votre navigateur web et de la cache système. Ces éléments s'effacent au redémarrage et se recréent de toute façon dès que vous relancez vos logiciels. Si votre disque dur a encore assez d'espace de stockage pour fonctionner correctement, ne vous embêtez pas avec ça. par le passé. C-Cleaner jouissait d'une excellente réputation. Mais son rachat par le géant Avast a changé la donne. Il est devenu lourd, intrusif et commercial. Il cherche constamment à s'exécuter en arrière-plan pour collecter des données ou vous vendre sa version payante. Libéré de l'espace en le désinstallant. Windows intègre déjà un outil officiel parfait. Tapez « Nettoyage de disque » dans votre barre de recherche. Ce programme maison élimine les surplus informatiques sans risquer de briser des fichiers système essentiels. Une lectrice, Pierrette Pyrus, demande « Mon adresse courriel est sous le domaine sympatico.ca de Bell. Si je quitte ce service pour un concurrent, vais-je être obligé d'abandonner mon adresse courriel ou vont-ils maintenir mon accès? » La réponse est triste et sans appel. Si vous mettez fin à votre abonnement Internet chez Bell, vous perdrez l'accès à votre adresse sympatico.ca. Remarquez, il y a pire. Un de nos collègues, qui a quand même vu neiger, est pris avec son adresse CompuServe. Une antiquité. Forcément, les fournisseurs de services Internet n'offrent pas ces boîtes de courriel par pure générosité. Ils les utilisent comme un outil de rétention pour vous lier à leurs services. Maintenir l'infrastructure de millions de comptes inactifs coûte cher et Bell coupe généralement l'accès quelques semaines après la résiliation de l'abonnement de ses ex-clients. Pour éviter de tout perdre, vous pouvez orchestrer une transition tout en douceur en utilisant un tiers service comme Gmail ou Outlook de Google et Microsoft, ou même ProtonMail, pourquoi pas. Ouvrez un compte gratuit sur l'une ou l'autre de ces plateformes et automatisez le renvoi de messages de votre compte Sympatico vers la nouvelle adresse tout en avertissant vos proches du changement d'adresse. Peut-être même dans la signature dans vos propres courriels. Prenez aussi le temps d'inscrire cette adresse sur vos comptes importants, votre institution bancaire, Hydro-Québec, l'Agence du revenu du Canada, etc. Cela vous permettra ensuite de trouver un fournisseur Internet mieux adapté à vos besoins et à votre budget. C'était Reconnaissance vocale, vieille adresse courriel et l'infâme nettoyage d'un PC, un texte d'Alain McKenna, paru le 8 juillet 2026 dans La Presse.